Bubble. Entrez dans la bulle de Loli et découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Chaos, bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission d'Asian Bubble. Cette semaine, je vais vous parler de l'artiste Nakazawa Yuko. On parlera de trois mangas des éditions Kana avec la chronique du volume 10 de Banal à tout prix, la chronique du volume 8 de Hat Eli et la chronique du volume 13 de Fire Force. On aura ensuite un petit point sur les sorties mangas de la semaine. On parlera culture avec le judo au Japon. On aura ensuite une petite actualité en Corée du Sud avec un pasteur qui se voit réclamer 4 millions de dollars pour avoir contribué à propager la Covid-19. Voilà. Et on finira avec une petite news musicale concernant le nouvel EP de Tiosin. Voilà, on commence donc avec la première chanson de l'émission, c'est Heart and Soul de Marie Amada et on viendra juste après pour parler de l'artiste Nakazawa Yuko.
Tonight
C'était Marie Amada avec la chanson qui reste bien dans la tête, Earth and Soul. On passe maintenant à l'artiste Nakazawa Yuko. Alors, c'est une actrice et chanteuse d'enka et de pop japonaise qui a fait ses débuts en 1997 et qui est toujours en activité sous le label Zetima. Née le 19 juin 1973, elle est donc âgée de 47 ans. Elle a fait partie des groupes suivants. Alors, il y en a plein. Elder Club, Morning Musume 20, donc de 1997 à 2001. Akagumi 4 en 2000, HP All Stars en 2004, Pori Pori Pink en 2005, Afternoon Musume en 2010, Dream Morning Musume en 2011 et en 2012, Ganbaro Nippon Aiwa Katsu Singers en 2011 et Morning Musume 20th de 2017 à 2018, le tout en tant que chanteuse. Donc Yuko était l'une des 5 finalistes en 1997, lors d'un concours pour trouver une idole japonaise de rock. Après le concours, le musicien et producteur Tsunku lui offre avec les 4 autres finalistes, donc Natsume Abe, Kaori Iida, Aya Ishiguro et Asuka Fukuda, une chance d'être prise sous sa tutelle à une seule condition, qu'elles vendent tout ensemble 50 000 CD de leur chanson Ainotane en 5 jours. Quand même beaucoup, hein. Mais le groupe réussit le défi en seulement 4 jours, marquant ainsi la naissance des Morning Musume. Peu de temps après la formation du groupe, elle commence une carrière solo en 98 avec une chanson de style enka, mais elle retourne finalement vers la pop avec beaucoup de slow et de ballades. Yuko est aussi une participante régulière dans le Hello Project Folk Songs et elle se retrouve dans le Akagumi 4 du Hello Project de l'été 2000. Dans les Morning Musume, Yuko chante beaucoup avec un très grand nombre de solos. Étant la membre la plus âgée, elle est la leader du groupe jusqu'en 2001, où elle est remplacée par Kaori Iida et Kei Yasuda. Elle explique son départ du groupe à cause de son âge, confiant qu'il est temps de faire autre chose. Depuis, elle a participé à différents dramas comme Beauty 7 et Homemaker, tout en continuant une carrière solo avec un succès raisonnable. Malgré tout, elle continue quand même de travailler avec les Morning Musume dans le cadre du Hello Project. Le 11 avril 2005, elle devient une performeuse dans l'émission de la Mainichi Broadcasting System, nommée Chunen. Au début de l'année 2009, ensuite, elle est gradée du Hello Project avec les autres anciennes du Elder Club. Puis, en 2011, elle fait partie du projet Dream Morning Musume. Voilà, donc côté discographie, donc en solo uniquement, elle a sorti 2 albums, Dainisho Tsuyo Kagari, qui est sorti le 22 juillet 2004, et le dernier, c'est Legion, qui est sorti le 10 décembre 2008. On a aussi 2 cover albums, Folk Song 2 qui est sorti le 22 mai 2002 et Folk Song qui est sorti le 21 mai 2003, c'est le Folk Song 4 d'ailleurs. On a ensuite 13 singles, Karasu no Nyobo qui est sorti le 5 août 1998 pour le premier et Danasama qui est sorti le 10 octobre 2007 pour le dernier. On a aussi 2 compilations, Folk Song 1 qui est sorti le 29 novembre 2001 et Folk Song 3 qui est sorti le 23 octobre 2002. On a aussi un CD bonus, Song and Monologues, Kisetsu no Monogatari Kikitai Koto, qui est sorti le 19 juin 2007. Et enfin, elle a participé à une OST, Minimoni The Movie Okashi na Daiboken, qui est sorti en 2003. Voilà, on va pouvoir s'écouter tout de suite 2 chansons de Yuko Nakazawa. On commence avec Futari Gurashi. Et on reviendra juste après pour la chronique du volume 10 de Banal à tout prix.
Oh,
Asian Bubble. Découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Go, 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 go
c'était Nakazawa Yuko avec la chanson Get Along With You. On passe maintenant à la chronique du volume 10 de Banal à tout prix. Donc je rappelle que c'est un shoujo de genre drame, romance, vie scolaire qui a été écrit par Nanaji Nagamu et prépublié dans le Margaret. La version japonaise est parue aux éditions Shueisha avec un total de 14 volumes qui termine la série. Et la version française est parue aux éditions Kana avec pour le moment 11 tomes. Et ce volume 10 est sorti le 10 mai 2020 au prix de 6,85€. Le résumé de ce tome, la journée d'anniversaire de Koiko, entièrement organisée par Tsurugi, commence enfin. Mais Koiko a beau s'être excusé d'avoir douté des sentiments de son petit ami, celui-ci ne semble pas prêt à lui pardonner de sitôt et passe en mode arrogant, ce qui n'est pas forcément pour lui déplaire. Quand leur rendez-vous semble enfin prendre une tournure plus détendue, les deux adolescents se retrouvent dans l'incapacité de rentrer chez eux. Où et comment vont-ils passer la fin de la journée ? Alors que Koiko fait tout son possible pour se faire pardonner d'avoir douté de son petit ami, Tsurugi s'applique à lui faire passer un merveilleux anniversaire, sans oublier de la taquiner. Leur rencard va prendre un tour étonnant quand ils se verront dans l'impossibilité de rentrer le soir. Une mise en scène d'ailleurs assez amusante puisque Nagamu Nanaji entretient tout le long du rendez-vous l'alternance entre « on va pouvoir rentrer » et « on va devoir passer la nuit ici ». Donc depuis le départ, nos deux héros vivent une relation très pure. La conséquence, quand des idées indécentes font leur apparition, ils ne savent absolument pas comment les gérer. Le tome est rythmé par des petites prises de tête et confusions sur ce thème, et on s'amuse de les voir se démener avec l'évolution de leurs attentes et de leurs sentiments. C'est la première fois que Koiko ressent l'aspect passionnel d'une relation amoureuse. Elle est déstabilisée par ses nouvelles pensées, mais du fait qu'elle est avec Tsurugi, tout arrive très naturellement. La mangaka continue de mettre en scène des situations parallèles pour illustrer les troubles de ses personnages, comme lorsque les deux tourtereaux se donnent une claque à eux-mêmes. Ils sont toujours synchro et comme d'habitude, le rendu est efficace et dynamique. Nagamu Nanaji soigne particulièrement les regards qui servent à merveille le changement d'ambiance entre nos héros. On suit également Aiko qui a découché, d'ailleurs Koiko compare de nouveau sa situation avec sa sœur, et cette fameuse soirée est présentée sans artifice et sans dialogue, dans un enchaînement d'images qui parlent d'elles-mêmes. Un choix pertinent qui renforce l'intérêt du lecteur sur cette partie. Puis, un nouveau personnage fera son apparition, venant compléter le profil émotionnel de notre héroïne et nous apportant une vision supplémentaire pour expliquer son comportement face à l'amour. Mais c'est sans contexte le cliffhanger de fin qui marquera le plus les esprits à la lecture de ce volume. Un tournant pour le moins radical et surprenant s'annonce dans le développement de la relation amoureuse de Koiko et Tsurugi. Voilà, je vous en dis pas plus. Si vous voulez savoir quel est ce cliffhanger, vous n'avez plus qu'à aller lire donc Banal à tout prix, paru aux éditions Kana. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Marine Sports de Marie Yaguchi, et on viendra juste après pour la chronique du volume 8 de Hat Ellie.
Tu es
Voilà, un peu de country. Alors, c'était Marie Yaguchi avec la chanson Marine Sports. On passe maintenant à la chronique du volume 8 de Hat Ellie. Alors, je rappelle que c'est un shoujo de genre comédie, romance, vie scolaire qui a été écrit par Fujimomo et prépublié dans le dessert. La version japonaise est parue aux éditions Kodansha avec un total de 11 volumes, la série étant toujours en cours. Et la version française est parue aux éditions Kana avec pour le moment 8 tomes. Ce volume 8 est sorti le 3 juillet 2020 au prix de 6,85€. Et le volume 9 est prévu pour le 4 décembre prochain. Le résumé de ce tome, Eriko Ichimura alias Ellie, qui n'arrête pas de fantasmer, et le plus beau garçon de la promo, Akira Omi, sortent ensemble en secret et sont de plus en plus amoureux. Kaname, un garçon de la classe d'Ellie, s'intéresse à elle et finit par tomber amoureux. Mais au contact du lien profond qui unit Ellie et Omi, il choisit de n'être qu'un ami après avoir fait sa déclaration d'amour à la jeune fille. De son côté, Omi, jaloux de Kaname, part en roue libre. Il réclame à sa petite amie du spécial et lui donne un baiser comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Hat Ellie, c'est toujours un manga plein de tendresse. Un shoujo tout mignon, rempli de joues et d'oreilles qui rougissent et dont les petites blagues perverses sont toujours aussi mignonnes. Car quand Ellie dit qu'elle est perverse, en réalité, elle ne l'est pas vraiment. C'est juste une jeune adolescente comme toutes les autres qui aime son copain et qui découvre les choses de l'amour en sachant qu'elle n'y connaît absolument rien à la base. Quoi qu'il en soit, ce volume ne parlera plus du tout de Kaname, ce qui est quand même un peu dommage. C'était un personnage très intéressant et on espère qu'il pourra faire partie intégrante du manga par la suite. Car pour le moment, l'autrice ne l'a utilisé que pour rendre Omi jaloux, ce qui a d'ailleurs très bien fonctionné. Il est même tellement jaloux qu'il décide de prendre son courage à deux mains et de dévoiler au grand jour la relation qu'il a avec Ellie. Ellie va donc vivre des moments de doute, elle qui ne se sent pas assez bien pour lui. Va-t-elle être acceptée par ses amis? Omi sera-t-il mal vu lorsqu'on saura qu'il sort avec elle? Mais elle prendra quand même son courage à deux mains pour affronter tout cela. C'est une partie assez intéressante de l'histoire car elle dévoile vraiment tout l'amour, l'affection et le respect que peut avoir Omi pour sa copine. Et on adore aussi quand l'autrice montre que ces deux adolescents peuvent tout se dire sans aucun tabou. Toutefois, le plus grand obstacle d'Ellie ne se trouvera pas là où elle l'attendait. Son père, surprenant un flirt entre elle et Omi, décide de lui confisquer son téléphone et ne cautionne plus cette relation. Et même si Ellie fait des efforts, ce sera à Omi de prouver à son père qu'il est digne d'elle. D'ailleurs, le tome se terminera par une révélation des plus surprenantes. Il n'y a donc plus qu'à attendre le 4 décembre prochain afin de pouvoir lire la suite et découvrir comment le père d'Ellie réagira. Voilà, donc Hat Ellie à retrouver aux éditions Kana. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Miracle Girl de Mariko Nagai et on viendra juste après pour les sorties manga de la semaine. Yeah. Donc c'était Mariko Nagai avec la chanson Miracle Girl. On passe maintenant aux sorties manga de la semaine. Alors, on a eu des sorties aujourd'hui, lundi 21 septembre, chez Hot Manga, avec le volume 1 de Momohime, Voyage vers Onigashima. Et aux éditions Meiyan, on a eu la sortie du volume 1 de Pop Team Epic et le volume 1 de Shigurui, l'édition 2020. Pour mercredi 23 septembre, on aura aux éditions Kaze la sortie du volume 4 de Black Clover Quartet Nights, le volume 38 de Haikyuu, Les As du Volet, et le volume 27 de Skate Dance. Aux éditions Delcourt Tonkam, on aura la sortie du volume 13 de Dead Tube, le volume 2 de Golden Sheep, le volume 10 de Infection, le volume 5 de La Malédiction de Loki et le volume 16 de Love X Dilemma. Et aux éditions Panini, j'en avais déjà parlé la dernière fois, mais la sortie a été repoussée. Donc on aura le Stardust Wink, le dernier tome qui regroupe les trois derniers, donc les tomes 9, 10 et 11. Un dernier tome qui fait donc trois tomes pour finir la série. Voilà. Ensuite, pour jeudi 24 septembre, chez Omake Books, on aura la sortie du volume 1 de Children. Aux éditions Komiku, on aura le volume 1 de Dahlia, artisane magicienne. Le volume 11 de Dipsy Valka. Le volume 15 de Gift. Le volume 10 de King of Hunts. Le volume 24 du chef de Nobunaga. Et le volume 9 de Monkey Peak. Et aux éditions Akata, on aura le volume 7 de Magical Girl Holy Shit. Le volume 2 de Our Colorful Days, l'édition reliée. Le volume 1 de Rendez-vous au Crépuscule. Et le volume 3 de Running Girl, Ma course vers les Paralympiques, qui sera le dernier tome de la série. Les dernières sorties de la semaine, ça sera pour vendredi 25 septembre, avec chez Naban, le volume 1 de 17 ans, Une chronique du mal. Aux éditions Kana, on aura le volume 1 de Hachum. Le volume 5 de Samurai 8, La légende de Hachimaru, qui sera le dernier tome de la série. On aura le volume 3 de Shaman King Flowers et le volume 1 de Yawara. Ensuite, aux éditions Ototo, on aura le volume 2 de Danmachi Sword Oratoria, le volume 8 de Fate Apocrypha, le volume 7 de It's My Life, les volumes 3 et 4 du Jour où j'ai décidé d'envahir la Terre, le volume 7 de Murcielago, le volume 12 de Overlord, et on aura le volume 11 de ReZero Relife in a Different World from Zero, troisième arc, Truths of Zero, qui sera le dernier tome de la série. Aux éditions Nazca, on aura le volume 7 de Tales of Demons and Gods. Et enfin, aux éditions Taifu, on aura le volume 1 de Yamada et Kase-san. Voilà, on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, F to Hope de Maryse Blaude. Et on reviendra juste après pour parler culture avec le judo.
To
Donc, c'était Maris Blaud avec la chanson F to Hope. On passe maintenant à la partie culture. On va parler donc du judo au Japon avec les femmes qui sont aux prises avec les inégalités. Le fondateur du judo, Jigoro Kano, était très en avance sur son temps lorsqu'il a encouragé les femmes à s'initier à cet art martial qui privilégie la technique pour vaincre la force brute. Mais depuis, les femmes judokas japonaises sont longtemps restées en marge, ont enduré des discriminations et ont même subi des abus qui ont défrayé la chronique, alors qu'elles faisaient la preuve d'une brillante réussite dans ce sport. Jigoro Kano, qui a vécu de 1860 à 1938, avait dit à ses premiers disciples que la forme plus subtile de cet art martial pratiqué par les femmes à l'époque serait le véritable héritage du judo et non sa version plus puissante pratiquée par les hommes. Donc il ouvrit cette discipline aux femmes dès 1893 et en 1926, fut officiellement créée une division féminine dans son institut Kodokan, une révolution à l'époque. Un des principes maîtres du judo est le Juyoku Gowo Seisu, qu'on peut librement traduire par « la douceur maîtrise la dureté ». Donc autrement dit, un judoka physiquement moins puissant peut utiliser la force de son adversaire contre lui. Donc, je cite, « un esprit très avant-gardiste, dit du fondateur révéré du judo, Kaori Yamaguchi, qui a été médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988 et qui siège à présent au comité olympique japonais. » Voilà, on parlera de tout ça encore la semaine prochaine. J'ai encore plein de choses à vous dire sur les femmes et le judo au Japon. On va s'écouter tout de suite maintenant. Alors, préparez-vous. Hein. Je vous ai passé plein de trucs chelous ce soir, mais là, c'est le pompon, on va dire. Hein. Donc, c'est Impact Death Entity de Masaworks Design, voilà. Donc, vous allez voir que c'est en featuring avec Hatsune Miku, voilà, un peu de Vocaloid, ça faisait longtemps. Et on reviendra juste après pour la chronique du volume 13 de Fire Force.
Thank you.
Voilà, un peu de douceur pour vos oreilles. Alors, c'était Masterworks Design en featuring avec Hatsune Miku pour la chanson Impact Death Entity. On passe maintenant à la chronique du volume 13 de Fire Force. Alors, je rappelle que c'est un shonen de genre action, comédie, drame, science-fiction, surnaturel, qui a été écrit par Okubo Atsushi et prépublié dans le Shukan Shonen Magazine. La version japonaise est parue aux éditions Kodansha avec un total de 25 volumes, la série étant toujours en cours, et la version française est parue aux éditions Kana avec pour le moment 15 tomes. Ce volume 13 est sorti le 31 janvier 2020 au prix de 6,85€, et je rappelle aussi que la série est pour public averti à cause de la violence modérée. C'est raisonnable quand même, mais j'avoue qu'il y a des moments où c'est un peu caca. Alors, le résumé de ce tome, la lutte pour l'Adora Burst s'annonce chaude. Le grand prédicateur et ses sbires veulent rassembler 8 détenteurs de l'Adora Burst. Les pompiers de la Fire Force pourront-ils protéger Inka, la 5e détentrice de la fameuse flamme ? Le grand prédicateur veut rassembler les détenteurs de l'Adora Burst, les piliers, et pour ce faire, il s'apprête à enlever une jeune fille qui peut voir l'avenir. Alors qu'un gigantesque incendie est en train de ravager la ville entière où se trouve cette jeune fille, la 8e brigade intervient et se dresse contre les subordonnés du grand prédicateur. Donc on était resté sur une situation plus que délicate pour nos héros qui devaient se confronter à de puissants adversaires, dont un utilisateur d'Adora Burst, avec deux objectifs tout aussi complexes que dangereux. Donc récupérer le 5e pilier avant leurs adversaires et éteindre l'incroyable incendie qui se propage sans limite. Ce 13e opus s'ouvre donc avec une tension vraiment palpable, une tension qui va perdurer sur les deux tiers du tome. Donc en ce qui concerne les affrontements, ils passeront au second plan, bien que l'auteur s'attarde sur celui opposant Shinra à son adversaire. Un petit clin d'œil au métalleux est fait, mais à part ça, le combat n'a rien de bien exceptionnel, d'autant qu'il va encore s'agir d'un affrontement sans conclusion, les deux adversaires devant se séparer avant la fin du combat. Voilà, ça c'est chiant. Il s'agit d'une ficelle récurrente dans les shonen, mais ça a quand même tendance à agacer. Allez jusqu'au bout quand vous allez faites vos combats, bon sang. Hein. C'est pas « Oh allez, on verra ça la prochaine fois » et on s'en va. Non, non, non. La gestion de l'incendie est quant à elle beaucoup plus intéressante. Il s'en dégage un souffle épique et on est vraiment absorbé par ce qui se passe. Et c'est d'autant plus sympa à suivre qu'il s'agit du fruit d'une collaboration entre les différentes brigades. Une fois cette phase vraiment passionnante terminée, il faut envisager la suite et nous tenir en haleine, ce qui n'est pas toujours évident. Une équipe composée là encore de membres de différentes brigades va donc partir enquêter en quittant Tokyo pour aller en Chine. Une nouvelle phase débute qui semble vouloir partir sur un autre schéma, une phase centrée sur l'aventure et sur la découverte avec des personnages qu'on suit depuis le début et d'autres nouvelles têtes. Cela s'annonce intéressant mais force est de constater que les premières impressions laissent quand même à désirer. L'auteur part dans des délires qu'on pourrait avoir du mal à suivre, des délires qui semblent un peu plus collés à Soul Eater qu'à l'esprit de Fire Force, mais bon, attendons la suite pour juger cette partie. Un tome intéressant donc, qui se montre prenant sur la quasi-totalité, mais qui a toutefois de quoi laisser dubitatif dans son dernier quart. Voilà, et si vous suivez un peu l'animé et le manga, du coup vous savez que l'animé a dépassé le manga, donc si vous voulez la suite des tomes et que vous voulez pas attendre, voilà, vous avez toujours l'animé. Sinon, Fire Force est à retrouver donc aux éditions Kana. On va s'écouter tout de suite le super premier opening de l'anime NN no Shobutai, c'est Inferno de Mrs. Green Apple. Et on reviendra juste après pour une actualité en Corée du Sud.
Love. てなぜ僕らは思考を急にやめているんだ。夢は安泰な明日が知識不足は二腹腹食せぶ闇夜がにすがりついたまま朽ちてくんだ。ここはゴーダウンアクだが傷跡がひりつきただ。水面が立つ光の方へ手を取るは新しいメモリー。夜空が沸かす散る手の方へ遮るは堅苦しいセオリー。永遠はないだろうないだろうよ。やっぱ苦しいだろうないでみる。風船もいつかはしぼむ。痛みを飛ばすもんも全部僕にとっての宝物。
Voilà, donc c'était Mrs. Green Apple avec la chanson Inferno qui a servi de premier opening pour l'animé NN no Shobutai. On passe maintenant à l'actualité en Corée du Sud. Jun Kang-un dirige l'église protestante Sarangjel, basée dans le nord de Séoul, la capitale sud-coréenne. La municipalité de la ville a annoncé vendredi 18 septembre son intention de le poursuivre au civil pour dommages et intérêts pour un montant de 4 millions de dollars. Jun Kang-un se voit reprocher d'avoir organisé plusieurs rassemblements dans le centre de Séoul, notamment le 15 août dernier. Des rassemblements qui semblent avoir largement contribué à une résurgence du coronavirus. Le nombre de nouveaux cas qui avait chuté à 10 par jour début août en Corée du Sud était donc remonté à plus de 150 fin août. Voilà, il y a quand même une grosse différence. Le chef de cette église a lui-même été testé positif, tout comme 15% de ses adeptes. Au total, l'agence coréenne de santé évalue à près de 1200 le nombre de cas directement liés à l'église Sarangjel, dont près de 600 cas de contamination lors du seul rassemblement du 15 août. La municipalité considère donc que Jun Kang-un est donc responsable par effet de chaîne de la prise en charge hospitalière de 640 malades, du financement de nombreuses mesures d'isolement et de la baisse de fréquentation des transports qui a accompagné cette reprise épidémique. À partir de la mi-août, les autorités sud-coréennes ont été contraintes de reprendre des mesures de confinement. Alors, cette judiciarisation est très révélatrice. En Corée du Sud, plusieurs églises sont dans le collimateur, et en particulier une autre, l'église Shincheonji de Jésus, une église dissidente chrétienne qui a tout d'une secte. Elle revendique plus de 200 000 adhérents et a joué un rôle central dans la propagation du virus sur le sol sud-coréen au début de l'épidémie en février. Son chef, Lee Man-hae, a été arrêté début août pour entrave à la lutte contre le virus et tentative systématique de destruction de preuves. On lui reproche notamment d'avoir maintenu un énorme rassemblement de fidèles en février dans la ville de Daegu. Ce rassemblement a constitué le plus grand foyer épidémique du pays. Donc les adeptes de cette église représentent à eux seuls un tiers des patients contaminés en Corée. Voilà, faut pas chercher plus loin en fait. Hein. Là aussi, des poursuites judiciaires sont engagées depuis plusieurs mois. Cette fois-ci, ce n'est pas contre le chef de l'église en tant que personne, mais contre l'église en tant qu'institution. Et la demande est encore plus colossale, soit 80 millions de dollars de dommages et intérêts. Voilà, bien fait. Globalement, en Corée du Sud, l'épidémie demeure sous contrôle malgré ces foyers de contamination liés à certaines églises. Le bilan s'élève à 370 morts et 22 700 cas, sur une population totale de 52 millions d'habitants. Donc on est loin de la situation en Europe ou sur le continent américain. C'est le résultat d'un dépistage à très grande échelle et d'un traçage extrêmement strict de tous les cas contacts. Le confinement qui avait donc été en partie rétabli mi-août est en train de s'assouplir à nouveau. Les bars et les salles de sport vont par exemple rouvrir à partir d'aujourd'hui, mais il devrait quand même y avoir beaucoup de restrictions pour les déplacements massifs qui se déroulent habituellement lors de la fête des moissons, qui est prévue à la fin du mois de septembre. Voilà, on va pouvoir tout de suite écouter une autre chanson, Only One, Number One de Masami Okui, et on viendra juste après pour finir l'émission avec une news musicale. Voilà, j'espère que vous avez tous agité votre bâton lumineux pour cette super chanson en live. C'était Masami Okui avec la chanson Only One, Number One. On va maintenant finir l'émission avec une news musicale. Le rappeur Tiosyn a sorti un nouvel EP numérique le 11 septembre dernier. Donc intitulé Blue Blue, il comprend 7 titres, dont les singles numériques Lotus et Hype, qui ont été présentés en avant-première sur la chaîne YouTube Demon Astari en 2019. Charlie Scheffler, connu pour avoir produit des morceaux pour des artistes tels que Lil Peep, a produit le deuxième morceau de l'EP intitulé Secret 2020. Alors, ce n'est pas leur première rencontre, car Scheffler a produit le rythme du morceau Lost de Tiocin en 2018, et Tiocin a produit la première représentation de Scheffler au Japon en 2019. Le premier titre de l'EP Misery est produit en collaboration avec le chanteur de R&B Demixtia, basé en Floride. Et Ryuta Takaki, producteur de musique et propriétaire du label Macran, a quant à lui produit la chanson Birdcage et s'est également occupé de l'artwork. Donc le concept de la sortie est dit être la dualité du bleu. Le bleu foncé et profond représente la mer et le désespoir, tandis que le bleu clair représente l'espoir. Avec cette sortie qui fait suite à son EP de 2019, intitulé Dive, il émerge de la mer profonde et regarde vers le ciel. Voilà, c'est beau. Donc on s'écoutera la très courte chanson Lotus de Tiocin pour finir l'émission. Demain matin.